Europe 1.
Bienvenue dans la France Bouge Academy. Si c'est votre idée, votre projet qui est mis en avant, vous vous demandez comment le développer, si vous êtes sur la bonne voie, venez vous tester. Il suffit pour ça, Céline, tout simplement de nous écrire.
Oui, en nous envoyant un mail, par exemple, à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, @ou #EuropeRaphaël.
Et ensuite, eh bien, la porte du studio vous sera ouverte pour être face à notre équipe et notre duo d'experts. Éric Léandri, fondateur de Quant, et Laurence Meignery, présidente et cofondatrice de Citizen Capital, sont avec nous. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Face à nous, je vous présente Victor Foucret, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 21 ans et avec Maxime Smolinski, votre associé, vous avez imaginé une carte qui s'insère dans nos portefeuilles pour protéger notre carte bancaire contre les piratages. Alors, elle s'appelle Absolute Secure et vous avez évidemment, vous aussi, comme toujours, une petite minute 30 pour nous dire comment est né ce projet et aussi ce que vous cherchez.
Alors, tout à fait. En fait, Absolute Secure découle d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, vous vous baladez dans la rue, vous êtes dans les transports en commun. En 2 secondes, avec une application sur mon téléphone portable, je peux récupérer vos données bancaires grâce au sans contact et les revendre sur Internet. Ou bien même vous prélever de l'argent en marchant à côté de vous dans la rue, en prélevant de l'argent grâce au sans contact, en fait, directement sur votre compte bancaire. Donc le sans contact, aujourd'hui, c'est pratique, c'est simple, mais c'est pas sécurisé. Et on est 44 millions de Français à utiliser le sans contact. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution justement pour sécuriser ce sans contact. Donc on a décidé de proposer la carte de protection Absolute Secure. Donc en fait, comment ça marche? C'est très simple. Donc c'est une carte qui fait la taille d'une carte de fidélité par exemple. Vous l'insérez dans votre portefeuille et elle va émettre une onde en fait qui va brouiller le sans contact de votre carte bancaire et donc la rendre invisible. Du coup, vous pouvez aller n'importe où après, votre carte bancaire est indétectable et du coup, vos données bancaires sont protégées. Vous allez me dire, si j'ai envie de réaliser un paiement sans contact, du coup, comment ça marche? Ben, en fait, c'est très simple. Vous avez juste à retirer votre carte bancaire du portefeuille et dès qu'elle s'éloigne à plus de 5-6 cm de la carte de protection, le sans contact se réactive et vous pouvez effectuer votre paiement tout simplement. Donc en fait, le but, c'est vraiment de protéger le sans contact sans aucune contrainte pour l'utilisateur.
Voilà pour le pitch, on est presque à la minute 30. Merci Victor, on va se tourner tout de suite vers nos experts, Éric et Laurence. Des questions, des remarques pour Victor? Qui se lance? Alors, Laurence.
J'ai deux questions qui viennent à l'esprit, oui. Bravo déjà. Merci. Moi j'ai découvert le risque qu'on court assez récemment. Donc première question, comment vous comptez alerter vos clients potentiels sur le risque qu'on court, puisque c'est le premier sujet pour élargir votre base de clients, c'est le niveau de connaissance qu'on a sur ce sujet.
Tout à fait.
Et deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui empêcherait demain une banque de proposer à ses clients ce type de carte si ça s'avère si utile à l'avenir? Un plus gros acteur qui aura plus d'accès aux clients.
Alors en fait, pour ce qui est du risque, on s'est rendu compte qu'en fait, très peu de personnes sont au courant qu'on peut se faire pirater sa carte bancaire dans la rue comme ça. Les gens connaissent les piratages sur Internet, mais pas les piratages dans la rue. Donc justement, le premier but, c'est de venir sur des plateaux comme ici pour sensibiliser déjà les gens au risque qu'encourent en fait, les cartes bancaires. Donc qu'ils sachent qu'en fait, le sans contact, c'est pas forcément sécurisé et qu'il y a des solutions justement qui existent pour le sécuriser. Donc notre premier but, c'est de sensibiliser un maximum les personnes en faisant de la communication et justement de leur proposer notre solution qui permet de les protéger des piratages au sans contact en investissant dans une carte qui coûte uniquement 25 euros en fait.
Éric ?
Je trouve que l'idée elle est très bonne, de toute façon il va falloir sécuriser tout ça, donc voilà, d'habitude je vois surtout des gens qui mettaient des systèmes qui évitent de passer le RFID avec de l'alu ou autre chose. Je trouve que là l'idée est très bonne, le coût est peut-être un peu cher, mais c'est assez facile à vendre si c'est inclus par une banque. Moi je pense qu'aller voir toutes les banques et leur proposer l'histoire si ton brevet est bien déposé, c'est une bonne idée, comme ça évitera qu'une essaye de le faire, là tu le vends à tout le monde. L'autre truc c'est dans les portefeuilles, est-ce que tu peux les passer directement dans le portefeuille? Est-ce que c'est une idée que vous avez d'aller voir des gens qui font déjà des portefeuilles pour leur donner ça à l'intérieur? Tu vois, plutôt que j'achète une carte, que je rajoute, c'est top. Hein. D'ailleurs, je vais t'en acheter une. Mais la vraie question, c'est juste ces petites choses-là.
L'intégrer directement dans
voilà, comment tu le sens d'aller le placer à tous ces gens-là, parce que là, c'est 40 millions de cartes. Quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, en fait, dans un premier temps, justement, on le propose sur notre site internet pour faire connaître le produit et les risques. Mais le but, c'est vraiment de développer des partenariats avec des vendeurs de maroquinerie, de portefeuilles, ou même des banques dans un second temps pour vraiment proposer ce produit à grande échelle et à un prix plus attractif et qu'en fait un maximum de personnes soient équipées.
À mon avis, va voir Village by CA du Crédit Agricole. Ils vont beaucoup aimer ton délire.
Qu'on connaît bien ici, hein, qui est effectivement un de nos experts. Lundi prochain, ce sera sur le site internet, c'est ça ?
Alors, c'est sur le site internet depuis hier, en fait.
Bon, donc, vous avez
déjà
anticipé.
Possible de s'équiper, ouais.
Donc, on peut s'équiper. Alors, moi, il y a une question que je vais vous poser. Ouais. Vous me voyez venir. La fabrication, pour l'instant, elle est chinoise.
Tout à fait, oui. C'est
mais
fait,
j'ai bien dit pour l'instant, parce que manifestement, vous comptez rapatrier la fabrication en France ?
En fait, pour l'instant, oui, on le fait à Shenzhen, en Chine, avec un expert dans le domaine donc de tout ce qui est puce électromagnétique, parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. Et aujourd'hui, on produit pas des quantités assez importantes en fait, pour avoir une ligne de production entière en France. Donc, on emprunte une ligne de production à quelqu'un qui est déjà spécialisé dans le domaine. Mais si on arrive à faire des quantités importantes et qu'on pouvait démarrer une ligne de production en France et que ce soit rentable, en fait, on pourrait le faire en France. Mais aujourd'hui, il faudrait développer des quantités importantes. Donc, pour pouvoir démarrer et proposer cette sécurité à un coût justement qui soit attractif pour le consommateur, pour l'instant, oui, c'est produit à Shenzhen.
Laurence, Eric.
Tu as un brevet, tu as quelque chose, tu as déposé quelque chose autour ou c'est juste de brouillage d'ondes et puis tu l'as mis dans une carte, c'est déjà là, il y a un milliard de cartes chinoises à 1 euro, qu'est-ce que tu apportes ?
Alors en fait, on n'a pas de brevet aujourd'hui puisque en fait c'est la technologie des puces électromagnétiques, elle existe déjà. Donc nous, on utilise une puce électromagnétique qu'on a modifiée pour qu'elle s'applique à l'application de la carte bancaire.
D'accord.
Et du coup, la technologie existe déjà, donc on ne peut pas déposer de brevet pour cette technologie.
Donc il faut aller vite.
Voilà, c'est ça. Il faut être les premiers et agir avant les autres.
Laurence ?
Donc, vous êtes peut-être plus sur un marché B2B que B2C, finalement.
C'est l'intérêt final. Au final, on développe là sur le B2C pour démarrer, mais notre vrai objectif, maintenant, c'est de se mettre dans le B2B et de développer des partenariats avec différents acteurs dans ce domaine.
Donc, vous commencez par le consommateur, mais l'idée, c'est d'aller voir les entreprises et de fabriquer avec elles.
Tout à fait. Là, le but, c'était vraiment de se faire connaître. Et maintenant, on veut développer des partenariats dans le B2B.
Qu'est-ce qui vous manque pour faire le Made in France total.
Le Made in France total, ce qui nous manque, c'est des partenaires. En fait,
la quantité, les partenaires, le financement.
Le financement, en fait, si on trouve des partenaires, on sera capable de le financer et de le faire en France. Donc, s'il y a des investisseurs, mais par exemple, qui veulent nous aider à le produire en France, ce sera tout à fait possible.
Ils sont les bienvenus. Maud ?
Oui, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est sur une thématique qui est assez anxiogène, finalement. Comment on fait pour communiquer un peu positivement, pour ne pas faire peur, justement, aux gens sur le vol de données, etc. Comment
Il y a quand même 44 millions de sans-contact aujourd'hui.
Donc, ça représente un chiffre important. Pour communiquer positivement, ce qui est positif, c'est que la solution, elle existe aujourd'hui et on peut se protéger. Donc, il y a un risque, comme pour tout ce qui concerne les données bancaires, il y a des risques. Mais il y a des solutions pour se protéger et ça, c'en est une. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Bon, après, Apple, c'est designé aux US et c'est fabriqué à Shenzhen. Hein, tant qu'il nous l'a fait malin en mode France et qu'il distribue ça dans 44 millions de portefeuilles en étant efficace, pourquoi pas Shenzhen hein.
Oui, pourquoi pas. Mais c'est mieux s'il fabrique ici, tout cas. Mais, c'est l'idée qu'il a de toute manière. Hein, je ne crois pas me tromper.
Si on arrive à trouver des spécialistes qui arrivent à nous faire les mêmes produits que ceux qu'on a à Shenzhen...
On va vous aider. Merci beaucoup, Victor. Vous nous donnez des nouvelles ?
Merci à vous.
Merci à vous d'être venu dans la France Bouge Academy.
Il est midi 37.
Europe 1.
On commence à se couvrir et pourquoi pas avec un sweat 100% made in France et 100% recyclé. C'est ce que propose Héro. À tout de suite.
La France Bouge Academy, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Vous souhaitez nous rejoindre dans ce studio pour nous parler de votre projet, écrivez-nous par mail e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer un message via Twitter @Europe1 Raphaël.
Et c'est vous qui serez peut-être demain dans le studio d'Europe 1 ici à la France Bouge Academy comme Florent Liénard aujourd'hui. Bonjour Florent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans et vous avez lancé Héro. Alors ça s'écrit H-E-1.
R-O.
Avec dans l'idée de produire des sweats made in France mais recyclés. Je suppose que celui que vous portez en est un. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous allez évidemment nous raconter votre histoire et votre projet. Top départ, 1 minute 30.
Alors, il y a près d'un an, je me suis rendu compte que l'industrie de la mode, c'était une industrie extrêmement polluante. En fait, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie du pétrole. Très concrètement, en fait, en Chine aujourd'hui, il y a 70% des cours d'eau qui sont pollués à cause des usines de textiles qui déversent les eaux contaminées, pleines de produits chimiques, dans les rivières. Et en France, à titre individuel, quand on va dans une boutique de vêtements et qu'on veut s'acheter un pull ou un sweatshirt, en fait, ce sweatshirt, il a consommé 8000 litres d'eau lors de sa production et près de 600 grammes de produits chimiques. Et donc, en fait, moi, je voulais m'investir dans l'écologie. Et donc, suite à la découverte de ces chiffres, j'ai créé Hero, donc, qui est la marque de sweat 100% recyclée, fabriquée en France. Et donc, ils sont recyclés à partir de plastique, donc des bouteilles plastiques qu'on va récupérer dans la nature et dans les océans, et à partir d'anciens vêtements, donc pareil, qu'on va recycler. Donc, la fabrication est faite près d'Amiens et près de Lyon. Et ils sont disponibles aujourd'hui donc, sur Ulule. Donc, ils sont en précommande depuis près d'un mois. Et il y a un engouement quand même qui s'est créé autour de la marque, donc on est super contents. Donc, ils sont disponibles en trois couleurs. Pour hommes et pour femmes, donc sur Ulule, encore pendant quelques jours. Et on va peut-être fêter les 1000 précommandes pendant l'émission.
Oui, parce que vous étiez à 900, 900 précommandes, alors que vous étiez plutôt parti sur 100 précommandes. Finalement, vous avez d'ores et déjà dépassé vos objectifs. Le pitch est terminé, on va se tourner tout de suite vers nos experts, Laurence et Eric. Qu'est-ce que vous pensez du projet Hero, Laurence?
Moi, je suis totalement impressionnée, déjà par le procédé de fabrication. Et alors là, en tant qu'investisseur à impact, nous, c'est des projets qui nous plaisent énormément. Et en plus, vous avez fait votre campagne sur Ulule, et on est investisseur dans Ulule, donc on a des liens. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait 8 fois l'objectif de vente sur Ulule. Hein. Vous êtes à plus de
800. Presque 10.
Croisez les
doigts.
On va regarder avant la fin de l'émission, ça sera sûrement monté.
Ce que je comprends, c'est que vous avez fait une première étape de la démonstration qui est déjà assez impressionnante, qui est de montrer qu'on peut faire des sweatshirts à base de plastique et de vêtements recyclés, ce qui est déjà très impressionnant. La question qu'on se pose, c'est, de mémoire, j'ai cru comprendre que vous étiez autour de 60-65 euros le sweatshirt, qui reste cher. Ouais. Pour un sweatshirt uni... La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment le surprix qu'il faut payer pour le respect de la planète dans la production de vêtements, ou est-ce qu'il y a des vraies économies d'échelle à faire, selon vous, au fur et à mesure où vous allez augmenter les quantités?
Alors, il y aura forcément des économies d'échelle à réaliser. Faut savoir que, de manière générale, les grands groupes appliquent des marges jusqu'à x10, généralement, entre les coûts de production et les coûts de revente. Sur des petites entreprises comme Hero, on est plutôt sur du x2, x2,5. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, évidemment, il faudra du volume. À terme, avec des économies d'échelle, on pourra diminuer ce prix. Par contre, on n'arrivera jamais à concurrencer les grands groupes qui peuvent produire dans un autre continent. On n'est pas du tout sur le même marché et sur la même cible. Du coup.
Florent, vous produisez... Qu'est-ce qui coûte cher dans le process? Est-ce que c'est la collecte des bouteilles et la transformation en bobines de fil en Espagne, ou est-ce que c'est l'envoi ici en France, à Amiens, pour la phase de tissage et ensuite la commercialisation?
En fait, il y a trois étapes et finalement, le coût est réparti assez uniformément entre la phase de recyclage qui a lieu dans un atelier en Espagne. Ensuite, toute la fabrication qui est réalisée en France, donc que ce soit à Amiens ou Lyon. Donc à Amiens, c'est du tissage, et à Lyon, c'est vraiment la confection. Du suite. Ces trois étapes-là coûtent assez cher, plus cher qu'en Asie en tout cas.
Eric ?
Moi, tout à l'heure, tu m'as impressionné avec un chiffre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais tu m'as dit 50 litres d'eau pour faire ton t-shirt et 8000 pour faire celui des autres. C'est la différence.
C'est finalement, en fait, quand on s'est penché sur la création du pull, on a voulu tacler quatre problèmes. D'abord, la consommation d'eau. Donc, pour un sweat standard, c'est 8000 litres.
C'est
pour un sweat Hero, c'est seulement 50. Ensuite, il y a la consommation de produits chimiques. Plusieurs centaines de grammes pour un sweat en coton standard, c'est zéro pour un sweat Hero. Et pour les pesticides, le sweat Hero n'en consomme pas du tout non plus.
C'est juste fabuleux. Quoi. Tu vois, l'impact global, je vois bien, à mon avis, si tu avais qu'une seule zone peut-être pour produire et assembler, ce serait peut-être meilleur, mais... Je trouve que ça, déjà, ça doit être dit et martelé, quoi. C'est juste génial.
Florent, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aller récupérer le plastique plus en proximité? Là, on a parlé de l'Espagne. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable en France? Est-ce que vous avez des systèmes qui ressemblent à ce qui se fait là-bas?
En tout cas, c'est ce que je veux faire à court terme. Et pour être honnête avec vous, j'ai des appels de prévu juste après la campagne, dans 2 semaines, avec des ateliers qui sont situés en France. Donc j'aimerais beaucoup le faire. Ouais.
Donc l'idée, c'est vraiment de rapatrier la totalité. Et là, pour le coup, ça aura peut-être un impact sur le prix du sweatshirt. Pas tout à fait,
non, pas
tout de suite en tout cas.
Pas tout à fait, parce qu'en France, ça coûte cher aussi. Et ce n'est pas forcément le transport, c'est plus la main d'œuvre.
Maud ? Non, je suis du coup sur Ulule. Hein, la progression, on est à 993 préventes.
Bon, allez,
voilà,
allez.
Donc on est presque au 1000 là. Laurence, vous dites quoi à Florent ? Il faut continuer. Bon, on est séduit par le projet. Il y en a de plus en plus qui se mettent sur ce marché-là. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'il y ait une prise de conscience plus générale ?
Je pense que nous, la question qu'on se poserait, c'est comment on sort d'une dynamique où on s'adresse à des militants, des consommateurs militants. Et une des questions qu'on peut se poser aussi, c'est finalement, et ça dépend aussi de qu'est-ce qui est embarqué comme valeur dans le procédé lui-même, mais vous pourriez, soit vous construisez une marque, avec tout ce que ça signifie en termes d'investissement marketing, c'est ce qui est compliqué, toujours compliqué pour un investisseur au tout début d'une jeune marque de vêtements, ou alors vous pourriez estimer que votre savoir-faire, c'est finalement la capacité à embarquer d'autres marques dans ce type de procédé. Qu'est-ce que vous avez réfléchi à cette hypothèse ?
Idéalement, les deux. Le but, c'est clairement de développer Hero partout en France, de développer d'autres produits début 2020. Voilà, des projets comme ceux-là, je ne suis pas le seul aujourd'hui. Permettent en tout cas de réveiller un petit peu les grands groupes et de... Voilà, je sais aujourd'hui qu'il y a du recyclé en R&D dans pas mal de grands groupes.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font et on pourra effectivement vous mettre en contact avec des gens qui sont très actifs sur cette question puisqu'on les reçoit assez régulièrement dans La France qui bouge. Merci Florent d'avoir été avec nous. On est convaincus hein, par les deux projets,
Éric
et Laurence. Bravo. Oui. Bon, on vous suit et vous nous donnez évidemment des nouvelles ici sur Europe 1.
Il est midi 47.
Merci Laurence d'avoir été avec nous.
Merci.
Allez, on part en rase campagne. Difficile de trouver des points relais, surtout pour les colis volumineux. Alors une solution est née, elle s'appelle Agricoli, pour récupérer vos paquets à la ferme. A tout de suite.